semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration de 7 jours d'événements sur la planète. La semaine dernière, nous avons parlé de la Turquie avec notre invité Ahmet İnsel qui se demandait si Recep Tayyip Erdogan, le président turc, n'était pas en quelque sorte un Poutine du Bosphore. Eh bien cette semaine, nous allons parler de la Russie et de son président. Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. Rendez-vous avec l'actualité africaine après le flash et avec vos messages, bien sûr. Nous partirons aussi en Syrie et en Irak grâce aux correspondants et aux envoyés spéciaux de RFI. Je rappelle que vous pouvez évidemment podcaster cette émission sur le site de la radio RFI.fr. Notre invité ce samedi, il s'appelle Michel Etchaninov. Il vient d'écrire Dans la tête de Vladimir Poutine, un livre publié aux éditions Solin Actes Sud, un livre qui vient de recevoir, c'était mercredi je crois, le prix de la revue des Deux Mondes. Un livre fort remarqué qui explique ce qu'il y a en quelque sorte dans l'esprit, dans la volonté de Vladimir Poutine.
Bonjour. Oui, je suis ravi de pouvoir parler du Erdogan de la Moscova aujourd'hui avec vous. Oui, alors il s'agit d'un projet qui n'a rien à voir avec la psychologie. C'est pour ça que le titre peut être un peu trompeur. Il s'agit plutôt de voir ce qui sort de la tête de Poutine, c'est-à-dire que pour l'écrire cet ouvrage, j'ai lu tous les discours, les interventions de Poutine depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, et j'ai essayé de voir quels étaient les fils culturels russes qu'il tirait dans ses discours, quelle idée il voulait mobiliser pour son projet pour la Russie.
Parce que je précise, Michel Etchaninov, que vous êtes vous-même agrégé docteur en philosophie, donc spécialiste de la question, rédacteur en chef adjoint rédacteur en chef d'ailleurs de Philosophie Magazine, magazine qui marche fort d'ailleurs, tout ce que vous faites marche fort en quelque sorte. Alors ce qui est intéressant en deux mots pour commencer cette émission, c'est de noter que Vladimir Poutine recycle en quelque sorte des philosophes russes.
Oui, ce qui est vraiment intéressant, ce qui m'a surpris d'ailleurs, et c'est ça qui m'a donné envie d'explorer un peu plus ce terrain, c'est que Vladimir Poutine parfois cite des philosophes. Alors des philosophes qui sont assez connus en Russie, parce qu'en Russie on lit beaucoup, on s'intéresse beaucoup aux idées. C'est un pays qui a quand même été sous emprise idéologique pendant des décennies, et donc qui a redécouvert des philosophes qui avaient été interdits parfois par le régime communiste. Et Vladimir Poutine cite des philosophes, et donc il donne des sorte de signaux idéologiques. Il cite certains philosophes, pas tous justement, certains qu'il choisit soigneusement ou que ses conseillers ou ceux qui écrivent ses discours choisissent pour lui, en tout cas pour essayer de montrer qu'il est en train d'écrire une page de l'histoire russe. Ça fait donc 15 ans qu'il est au pouvoir, Vladimir Poutine. Hein, il a deux mandats présidentiels, ensuite un mandat en tant que Premier ministre, mais c'était lui quand même le chef, puis un retour à la présidence en 2012, jusqu'en 2018, avec réélection possible jusqu'en 2024. Donc Poutine se situe dans le temps long, et il veut montrer à son peuple et au monde entier qu'il est en train d'écrire une page de l'histoire de la Russie, parce qu'il a le temps. Et du coup, pour montrer qu'il écrit cette page, eh bien, il mobilise des grands penseurs qui ont parlé de ce que devait être la Russie. Et donc, il essaye justement de donner une sorte de solidité idéologique à son action politique.
Alors, avant de reparler de Vladimir Poutine, et on parlera peut-être de quelques-uns de ses penseurs, Michel Etchaninov, avant donc de reparler du président russe et de la Russie, revenons sur ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi au Mali. On voyage beaucoup dans cette émission, hein, au nord-est de Kidal, à savoir la neutralisation, comme disent les militaires, de deux importants djihadistes. On l'a appris mercredi, Hag Inawalen, le numéro 2 du groupe Ansardin, et Abdelkrim Al-Targhi, le chef d'une katiba, c'est-à-dire d'une cellule d'ACMI, qui avait revendiqué l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon en novembre 2013. Tous les deux ont été abattus par l'armée française à Bamako. Mercredi, Serge Daniel.
2011, Tombouctou, nord-ouest du Mali, Abdelkrim El-Targhi commandite le rapt de ressortissants européens. L'un des otages tente de résister, il est abattu. Peu après, deux ressortissants français, Philippe Verdon et Serge Lazarevich, sont enlevés dans la localité de Douanza, dans le nord du Mali. Le rapt est signé par les sous-traitants d'Abdelkrim El-Targhi. L'un des otages, Philippe Verdon, va mourir dans les geôles d'Abdelkrim. Serge Lazarevich, lui, libéré il y a quelques mois. Dans le funeste palmarès d'Amada Agama, c'est son vrai nom, il y a également le rapt revendiqué de deux journalistes de RFI, Claude Verlon et Ghislaine Dupont. Nous sommes le 2 novembre 2013. Enlevés, les deux confrères seront retrouvés assassinés non loin de Kidal. Abdelkrim a revendiqué l'opération. Il aurait d'ailleurs lui-même supervisé à distance des détails de l'affaire. Michel Germano est un humanitaire français âgé de 78 ans en 2010 lorsqu'il est enlevé dans le Sahara. Il sera transféré dans la Katiba d'Abdelkrim. Pour le sauver, les armées françaises et mauritaniennes montent une opération pour le libérer. Échec, il sera battu par ses geôliers. Abdelkrim El Targhi libéré également ses otages contre paiement de rançons. Des rançons qui permettaient notamment à Acme d'acheter des armes.
7 jours dans le monde.
Alors l'actualité internationale, Michel Etchaninov, c'est aussi en Europe le sommet sur le partenariat oriental jeudi et hier vendredi à Riga. Lancé en 2009 en Pologne, cette initiative de l'Union européenne vise à faciliter les relations avec 6 pays de son voisinage à l'Est, dont l'Ukraine, la Biélorussie et la Géorgie. Mais le conflit en Ukraine et l'implication de la Russie née du refus du président Yanukovych de signer l'accord d'adhésion entre son pays et l'Union européenne lors du dernier sommet en 2013 à Vilnius a changé évidemment beaucoup de choses. Alors sur les enjeux de ce sommet, correspondance de Marielle Vituro, jeudi matin.
Ce sommet ne la concerne pas directement, mais la Russie va tout de même y jouer les premiers violons, cristallisant les positions des uns et des autres. Le fiasco du sommet de Vilnius en 2013 avait signifié le début de la crise ukrainienne, marquée par l'annexion de la Crimée par la Russie et les sanctions à l'égard de Moscou. Cette dernière est déterminée par tous les moyens à ne pas céder sur sa sphère d'influence dans cette région. Comment Bruxelles peut donc concilier cette politique de voisinage, le rapprochement de l'Union avec ses 6 pays et ses relations avec Moscou? C'est tout l'enjeu de cette rencontre. La Lettonie, qui organise le sommet, tout comme ses voisines baltes, sont adeptes d'une politique plus offensive au regard de leur expérience historique, de leurs liens économiques vitaux et d'une tradition de solidarité avec cette région. D'autres grands pays ne veulent pas bousculer la Russie. C'est donc une rencontre à minima qui aura lieu à Riga, tout juste un dîner et une matinée de discussion. La question de l'assouplissement du régime des visas avec la Géorgie, qui a travaillé d'arrache-pied et l'attendait, et avec l'Ukraine, a été remise à plus tard. L'avenir du partenariat oriental est en jeu.
Alors là, c'était Marielle Vituro avant ce sommet. Pour suivre les résultats de cette rencontre, évidemment, il faut écouter nos journaux ce matin. Suite d'une semaine d'actualité, alors, Michel Etchaninov, dans ce livre, vous analysez en profondeur, en vous fondant sur la philosophie, ce que pourrait être la doctrine, le poutinisme, en quelque sorte, en mouvement. Et vous distinguez trois paramètres, son côté conservateur, cette force conservatrice qu'il essaie de promouvoir, la théorie de la voie russe, on verra ce dont il s'agit, et ce que vous appelez, ce qu'on peut appeler un rêve impérial qui se manifeste par ce que l'on appelle l'Eurasie. Cette Eurasie a pris un petit coup là avec l'Ukraine et...
Effectivement, Vladimir Poutine, depuis le début, depuis 2000, parle de son projet eurasiatique. Son idée, c'est qu'il existe un espace finalement humain, culturel, économique, cohérent, qui va de la partie orientale de l'Europe jusqu'à quasiment l'extrême-orient, c'est-à-dire ça englobe la Russie, les pays qui l'entourent, notamment l'Ukraine, et également toute l'Asie centrale, les anciennes républiques d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Et donc Vladimir Poutine a le projet, et est en train d'essayer de le réaliser, d'une union eurasiatique. Depuis début 2015, donc, il y a un traité de libre-échange entre la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie. On attend le Kyrgyzstan, évidemment, le pays qui était attendu dans cette union que Poutine voit comme une sorte de concurrent, d'alternative à l'Union européenne, le pays qui était très important parce qu'il est riche, parce qu'il est très proche de la Russie, c'était l'Ukraine. Et donc avec avec le Maïdan, c'est-à-dire avec cette révolte ukrainienne qui a suivi le refus de Yanukovych de signer le partenariat oriental de l'Union européenne, eh bien tout le rêve de l'Union eurasiatique de Vladimir Poutine a volé en éclats, donc d'où la suite finalement.
Alors ce qui est très intéressant, vous l'expliquez dans votre livre, c'est que tout ça repose aussi sur de la philosophie.
Oui, c'est-à-dire que l'eurasisme, au début,
c'est une vieille affaire.
C'est une vieille affaire qui a commencé dans les années 1920, quand certains penseurs, mais aussi géographes, historiens, se sont dit, mais finalement, la Russie n'est pas partagée entre d'un côté l'Europe et de l'autre côté l'Asie. La Russie est le centre d'un ensemble homogène qui s'appelle l'Eurasie. Et donc, tous ces philosophes-là, dans les années 20, ont dit, bah, finalement, l'Europe occidentale, on n'en veut pas. Nous sommes la puissance eurasiatique. Et donc, Vladimir Poutine, quand il a construit son projet politique et économique, s'est fondée sur ces penseurs. Et les cite abondamment, notamment Lev Gumilyov, qui est un penseur du XXe siècle, qui a toujours dit que la Russie avait un destin eurasiatique et non pas européen. Et aujourd'hui, il y a des théoriciens de l'eurasisme qui expliquent que il y a maintenant deux grandes puissances géopolitiques dans le monde. Il y a l'Empire de la Mer, les États-Unis, le monde atlantique, et puis l'Empire de la Terre, c'est la Russie. Et que cette Russie est appelée à jouer un rôle salvateur contre le Léviathan américain. Alors, évidemment, ils oublient la Chine, qui est le grand problème.
Oui, c'est fâcheux, en fait.
Évidemment, qui serait fâcheux d'oublier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Poutine s'appuie sur des doctrines philosophiques anciennes ou plus récentes pour donner de la solidité à ses projets géopolitiques.
En fait, il utilise la philosophie quand ça l'arrange. Évidemment,
c'est-à-dire que Poutine n'est pas un philosophe roi, Poutine est un homme politique avisé qui s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une idéologie pour mobiliser son peuple et puis pour avoir de l'influence dans le monde. Donc il détourne un peu ses philosophes, il choisit ceux qui l'arrangent. Évidemment, il s'agit d'un usage très politique de la philosophie.
Et suite d'une semaine d'actualité, Michel Elchaninov, nous partons pour l'Irak maintenant. Ramadi, le chef-lieu de la province d'Anbar, est tombé dimanche entre les mains de l'organisation djihadiste de l'État islamique. Ramadi, qui compte 500 000 d'habitants, est situé à environ 100 km à l'ouest de Bagdad, où le gouvernement, s'appuyant sur les chiites, a lancé une mobilisation générale. Et en Syrie, cette fois, il faut signaler évidemment que l'organisation djihadiste de l'État islamique s'est emparée de la ville historique de Palmyre, carrefour, lieu d'échange entre l'Orient et l'Occident, dès le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Palmyre, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette offensive a aussi permis aux djihadistes de s'emparer de puits de pétrole, on en parle moins. Beyrouth, correspondance régionale de Paul Ralifet.
Palmyre est une ville ouverte sur le grand désert de Syrie, qui s'étend à l'est jusqu'à la région d'El Anbar en Irak, le fief du groupe État islamique. La région compte aussi de nombreux champs gaziers qui sont désormais sous le contrôle de l'organisation extrémiste. En même temps que l'attaque contre la ville, les djihadistes sont allés à l'assaut des puits de Shahar et de Jazal, dans le désert de Homs. Plus important encore, Palmyre est un verrou qui commande l'accès vers Homs, la troisième ville de Syrie, située à 150 km plus à l'ouest, et Damas, la capitale, à 200 km au sud. En prenant la ville, le groupe État islamique se rapproche de ce que l'on appelle la Syrie utile. Cette ceinture qui va du nord au sud abrite les terres les plus fertiles du pays et concentre 65% de la population. Tenue en grande partie par les forces du régime, cette région est désormais menacée au centre par l'organisation de l'État islamique, au nord par le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, et au sud par d'autres groupes islamistes.
La situation est évidemment à suivre dans nos journaux et sur le site de RFI, RFI.fr. Suite d'une semaine d'actualité aux États-Unis, cette fois avec la déclassification de 409 documents exactement saisis dans la villa d'Abbottabad au Pakistan, où Ben Laden a été tué en mai 2011 par un commando américain. Washington, mercredi, Anne-Marie Capomaccio.
Oussama Ben Laden, recherché par les services de renseignement du monde entier, reclus à Abbottabad, tentait manifestement de garder la main sur ce qui se passait à l'extérieur. On trouve dans les documents rendus publics des instructions détaillées envoyées à ses lieutenants et l'imprimé que tout apprenti terroriste doit remplir pour poser sa candidature. Sur la stratégie, des attentats aux États-Unis restaient un objectif, mais la France et l'Allemagne étaient également ciblées par le leader d'Al-Qaïda. Le projet toucher les économies européennes pour les forcer à changer de politique en Afghanistan. Les journalistes et les caricaturistes du prophète étaient aussi dans le viseur d'Oussama Ben Laden. « Il faut semer la terreur dans les médias », écrivait-il dans un document traduit de l'arabe par les services de renseignements américains. Il faudra des mois, voire des années aux historiens pour décortiquer cette matière. Ces milliers de pages qui révèlent un terroriste conscient de la traque dont il est l'objet, son obsession de la sécurité ne parviendra pas à le sauver.
Nous allons reparler de la Russie dans un instant, mais l'actualité internationale, Michel Elchaninov, c'est également l'asile temporaire accordé par la Malaisie et l'Indonésie à quelques 7000 migrants qui dérivaient dans les mers du sud-est asiatique, des Birmans ou des Bangladais. Pour l'Indonésie, écoutez d'ailleurs ce reportage de Marie Dumière à Langsa, à l'ouest de l'archipel, dans le détroit de Malacca.
Au camp de réfugiés de Langsa, la générosité des habitants du coin saute aux yeux. Les volontaires sont là pour servir à manger, pour renseigner les migrants. Et dans les hangars où ils sont accueillis, on trouve des montagnes de vêtements donnés. Nourcia, qui tient une petite boutique à quelques quelques kilomètres du camp, s'est immédiatement mise en route quand elle a appris vendredi dernier que des centaines de rescapés avaient été ramenés à terre.
On s'est dit qu'il fallait qu'on leur vienne en aide. On a collecté des choses à leur amener, des sachets de pâtes instantanées, de l'eau. On l'a fait par compassion parce que ce sont des êtres humains, parce qu'on est des êtres humains aussi. On est tous des êtres humains. Il faut de la compassion, c'est important.
Le gouvernement indonésien l'a finalement promis. Les migrants pourront rester sur le territoire pendant un an. Mais déjà, les rumeurs circulent, raconte Nursia, et certains pourraient ne pas être les bienvenus.
Les gens ici disent qu'il faut laisser les Birmans rester, mais pas les Bangladais. Les Bangladais, ils devraient rentrer chez eux. Quand ils étaient en mer, ils ont attaqué les autres. Ce sont de mauvaises personnes. C'est ce que les gens disent, et je crois que c'est vrai.
Au camp de Langsa, les Bangladais ne savent pas qu'ils ont mauvaise réputation. Tous expriment leur reconnaissance. Sans les Indonésiens, disent-ils, ils seraient morts en mer.
Suite d'une semaine d'actualité, puisque nous avons parlé de l'Irak, je précise, puisque nous parlons de la Russie, que la Russie a offert son aide militaire à l'Irak pour combattre l'État, l'organisation de l'État islamique. Vous vouliez réagir rapidement à ce qui se passe à Palmyre?
Oui, parce que j'avais, au début des années 2000, visité Palmyre, et j'avais évidemment été totalement ébloui par la beauté de ces ruines, et puis par le fait c'était une ville cosmopolite. On visite des temples dédiés à des consacrés à des divinités orientales, d'autres à des dieux romains, d'autres à des dieux grecs. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'orée d'un nouvel acte de barbarie culturelle de la part de ces islamistes qui vont essayer encore de sidérer l'Occident par leur violence destructrice. Mais ce que j'ai appris après ma visite également, c'est qu'à Palmyre se situait une grande prison. Très très terrible du régime de Bachar el-Assad, où on torturait les dissidents les opposants. Et ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que peut-être que Palmyre va être abîmée ou détruite par les islamistes, mais les islamistes de l'État islamique vont peut-être également être le premier à détruire ce symbole honni du règne de Bachar el-Assad, donc gagner peut-être en popularité parmi les insurgés. Donc il y a une victoire aux yeux de l'Occident, il y a peut-être aussi une victoire aux yeux des Syriens eux-mêmes, et donc malheureusement on est encore en train d'assister à une victoire des islamistes.
Alors Michel Etchaninov, en ce qui concerne la Russie et Vladimir Poutine, qui est votre objet d'étude préféré là, dans ce livre, dans la tête de Vladimir Poutine, ce qui frappe, c'est que dans la récupération, le recyclage qu'il fait de thèses philosophiques en général du 19e siècle, ce qui frappe, c'est qu'il y a un trait commun, c'est la recherche d'une identité russe au détriment ou contre l'Occident.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que dans le choix que fait Poutine parmi les nombreux philosophes russes qu'il a, entre guillemets, à sa disposition, il choisit presque toujours ceux qui affirment une sorte d'hostilité vis-à-vis de l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a l'affirmation de ce que j'ai appelé, c'est dans une tradition russe, une voix russe. L'idée suivant laquelle, eh bien finalement, la Russie a une voix spécifique, propre, différente de celle des démocraties occidentales, parce qu'elle est liée d'abord à ses spécificités géographiques, culturelles, à la confession orthodoxe de ses habitants, à sa vie paysanne très développée. Et cette spécificité, pour les philosophes slavophiles, puisqu'on appelle ainsi cette voix russe, les philosophes slavophiles qu'il cite, comme par exemple Danilevski, qu'il cite souvent, qui a écrit un livre qui s'appelle « La Russie et l'Europe », eh bien, cette voix spécifique doit pouvoir s'affirmer. Et selon ces philosophes slavophiles et pour Poutine, l'Occident essaie d'en empêcher la Russie. Et notamment lors de son discours tenu le 18 mars 2014, juste après l'annexion de la Crimée.
Oui, discours important.
Très important, Poutine, devant toute la nation, puisque là, Poutine a, comme les tsars d'antan, rassemblé les terres russes, agrandi les terres russes. Eh bien, Poutine dit, de tout temps, depuis des siècles, l'Occident essaye de nous repousser dans un coin. C'est-à-dire que, pour être elle-même, la Russie aujourd'hui a besoin de dire, la Russie de Poutine bien sûr, a besoin de dire, vous nous empêchez d'être nous-mêmes, laissez-nous nous agrandir, nous accroître, laissez nos frontières respirer, comme disent certains idéologues, et finalement, laissez-nous mener une politique impérialiste. Donc en fait, Vladimir Poutine s'appuie sur les philosophes les plus anti-européens pour essayer de justifier son action, et notamment l'annexion de la Crimée.
Michel Tchaninov, nous allons marquer une pause pour écouter quelques nouvelles du monde et peut-être parlerons-nous de la Russie. On va continuer à parler de Vladimir Poutine dans 3 minutes, donc à tout de suite. Merci pour toutes ces nouvelles du monde. Après ces informations, on se retrouve pour revivre 7 jours d'actualité avec la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Tout en revivant donc les grandes heures de l'actualité de la semaine, nous parlons de la Russie et plus précisément de Vladimir Poutine dans cette édition. Nous sommes en effet en compagnie de Michel Etchaninov, auteur d'un livre remarquable, je le répète, Dans la tête de Vladimir Poutine. Il est publié chez Solin Actes Sud. Dans quelques minutes, destination l'Afrique, bien entendu, Burundi, Mali, Afrique du Sud. Mais tout de suite, la France et la réforme du collège. Le décret d'application de ce volet de la réforme globale du système éducatif a été signé avec une inhabituelle rapidité au lendemain d'une manifestation d'enseignants. Véronique Rigolet.
Provocation, mépris, brutalité, la droite n'a plus de mots assez forts pour dénoncer le passage en force du gouvernement sur la réforme du collège, en ciblant principalement le Premier ministre Manuel Valls, le député UMP Daniel Fasquelle.
C'est le signe tangible d'un Premier ministre qui est aujourd'hui en très grande difficulté, en situation d'échec. Quand vous savez que les réformes que vous engagez ne permettront pas à la France d'aller mieux, eh bien vous réagissez de façon autoritaire, vous vous crispez.
Le patron des députés PS, Bruno Leroux, réfute de son côté tout acte d'autorité pour vanter les mérites d'une réforme prise, selon lui, dans la plus grande concertation.
Non, c'est un acte de détermination, il n'y a pas d'autorité. Il y a eu des discussions, il y a eu une réforme qui a été posée, qui continue à être expliquée avec un dialogue qui est maintenu. Mais il y a une détermination du gouvernement à faire en sorte que l'éducation soit la priorité nationale.
La droite demande désormais l'abrogation du décret réformant le collège, mais hésite toujours à rejoindre la manifestation nationale, réclamée par le centriste François Bayrou, une manif à laquelle ne croit guère le député socialiste Malek Bouti.
On passe pas tout d'un coup des cénacles du pouvoir à une capacité à faire basculer les Français dans la rue. Mais évidemment qu'il n'y aura personne. Si à Pau, admettons qu'il peut y avoir une manifestation d'employés municipaux à Pau, c'est une probabilité.
À suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Michel Etchaninov, dans la tête de Vladimir Poutine, donc, vous essayez de définir ce que pourrait être la doctrine Poutine qui s'appuie donc sur le recyclage de philosophie et de philosophes. Cette doctrine s'appuie sur le conservatisme, ce que l'on appelle la voie russe et sur ce concept d'Eurasie. On a parlé de l'Eurasie tout à l'heure, vous nous avez parlé de cela. Je voudrais qu'on revienne sur l'aspect conservateur de Poutine. Pour vous, Vladimir Poutine veut être dans le monde le représentant du conservatisme, oui. En tout cas en Europe.
Oui, il l'a dit de manière maintenant très claire lors d'un tournant conservateur qu'il a engagé en 2013, c'est-à-dire qu'il a tenu des discours où il a dit des choses très vigoureuse, notamment aux Européens. Par exemple, il explique, et je cite un discours de septembre 2013, « De nombreux pays euro-atlantiques, dit Vladimir Poutine, refusent les principes éthiques et l'identité traditionnelle, nationale, culturelle, religieuse ou même sexuelle. On mène une politique mettant au même niveau une famille avec de nombreux enfants et un partenariat du même sexe, la foi en Dieu et la foi en Satan. » C'est-à-dire que dans des propos très très rudes, Vladimir Poutine explique que selon lui, la Russie est à la tête d'un mouvement de reconquête conservatrice des valeurs, c'est-à-dire que il s'agit de ne pas oublier les racines chrétiennes de l'Europe, il s'agit de lutter contre ce que Vladimir Poutine appelle la propagande homosexuelle, c'est-à-dire ce qu'il appelle une culture homosexuelle qui d'après lui est responsable d'une crise démographique de l'Europe, hein. Il le dit très clairement dans ses discours, il veut plaider pour un patriotisme renouvelé. Bref, Vladimir Poutine propose à son peuple, mais aussi à tous les Européens, disons une sorte de nouvelle voie, très ouvertement conservatrice, assez obsédée par la question homosexuelle, et assez antidémocratique dans le sens où elle ne croit pas vraiment au fonctionnement de la démocratie formelle, mais préfère l'action d'un chef charismatique. Bref, Vladimir Poutine, en s'appuyant sur certains philosophes qu'il cite parfois dans ses discours et que j'essaye d'expliquer les citations dans le livre, eh bien, essaie de montrer une nouvelle voie pour les Européens.
Oui, alors vous citez notamment dans parmi ces philosophes un philosophe qui s'appelle Ivan Ilyin, qui lui, expulsé par Lénine en 1922, qui lui fait carrément le portrait du leader russe idéal d'après le communisme. Et comme par hasard, ça semble correspondre. Enfin, Vladimir Poutine s'est peut-être reconnu dans ce portrait.
Oui, je pense qu'il s'est reconnu parce que Ivan Ilyin, c'est un philosophe qui est très peu connu en France parce qu'il n'est pas traduit, mais qui est très très souvent cité par Poutine. C'est vraiment son philosophe favori. C'est sans doute le célèbre cinéaste Nikita Mikhalkov qui aime beaucoup ce philosophe, qui lui a fait lire. Et c'est vrai que quand on lit ces pages, moi je les ai lues, on voit une sorte de portrait en creux de ce que pourrait être le dirigeant d'une Europe qu'il soit pas engoncé dans son démocratisme. Il y a des pages sur le guide. Ivan Iljine, qui donc a vécu dans l'Europe entre les deux guerres, a été un moment séduit par le nazisme, mais surtout ensuite a été extrêmement séduit par ce qui se passait dans l'Espagne de Franco. C'est-à-dire que il est pour une sorte de guidance, oui, de démocratie d'acclamation. Et donc, il écrit des pages sur le guide qui sait ne pas se vendre à l'étranger, qui sait servir au lieu de se servir, qui ne cède pas au conseil des autres, qui sait agir en frappant l'ennemi. Bref, une sorte de chef charismatique dans lequel, je pense, Vladimir Poutine se reconnaît pleinement.
Oui, alors c'est intéressant, Michel Tchaninov, c'est que vous nous montrez dans ce livre qu'il y a eu une sorte d'évolution chez Poutine quand il est devenu Premier ministre, puis président, donc à partir de 1999 avec Boris Eltsine, on le considérait, enfin certains pouvaient le considérer comme un libéral entre guillemets, même s'il venait du KGB, qui n'est pas vraiment le modèle du libéralisme, mais il était plus proche de Kant que d'autre chose, puisqu'on parle de philosophe.
Oui, alors effectivement, ce qui est étonnant, c'est que d'abord, c'est vrai que Vladimir Poutine vient de Leningrad-Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire la ville la plus ouverte, tournée vers l'Occident de la Russie, mais aussi la ville impériale, donc la ville quand même de la bureaucratie fort, et de l'Empire, ouais, du pouvoir fort. Mais surtout, dans les premières années de sa présidence, 2000-2004, Vladimir Poutine cite très souvent le philosophe le plus caractéristique des Lumières, du pouvoir de la raison, du règne du droit, qui est Emmanuel Kant. Il le cite très souvent en disant que désormais les pays vont régler les conflits non plus par la guerre, mais par la discussion, que
la paix perpétuelle.
La paix perpétuelle, le fameux thème d'Emmanuel Kant. Et donc c'est aujourd'hui très étonnant.
Quelle évolution,
c'est ça, de lire des citations, des apologies de la paix perpétuelle chez Vladimir Poutine, qui cite Emmanuel Kant, alors que depuis 2012, effectivement, de manière, après un long cheminement, un long raidissement conservateur qui s'est exprimé de manière très forte à partir de 2013, Vladimir Poutine nous explique que cette Europe des droits est d'abord, selon lui, une Europe faible, que la paix perpétuelle est un idéal, parce que il faut savoir mener la guerre lorsque la situation historique le demande. Donc effectivement, on a pu voir depuis 15 ans une évolution à partir d'un Vladimir Poutine, disons, plus libéral, plus ouvert à l'Europe, jusqu'à un Vladimir Poutine aujourd'hui qui veut incarner une sorte de revanchisme par rapport au règne du droit européen.
Alors nous allons prendre le chemin de l'Afrique dans quelques minutes, Michel Tchaninov, mais avant je voudrais revenir à la France. Vous disiez qu'il voulait, Vladimir Poutine, être le symbole du conservatisme, et ça marche en France. Certains, beaucoup d'hommes politiques, de femmes politiques, se reconnaissent en lui.
Oui, effectivement, Vladimir Poutine séduit beaucoup à l'extrême droite, hein, il a des liens, oui, très privilégiés avec le Front National, également chez certaines personnes de l'UMP, la droite de l'UMP, mais aussi un petit peu Nicolas Sarkozy, qui doit être fasciné par son côté chef viril. Certains partis également de gauche anti-américains, comme Jean-Luc Mélenchon, ou des souverainistes de gauche. Bref, Jean-Pierre Chevènement, qui a tenu des propos assez favorables à Vladimir Poutine. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, aux yeux de nombreux Européens, et notamment des hommes politiques français, incarne une sorte de d'alternative à une démocratie qui doute un peu d'elle-même. C'est-à-dire que face à des questions qu'on se pose, des doutes qu'on a sur notre modèle démocratique, économique, politique, eh bien Vladimir Poutine, de manière un petit peu fantasmatique, il faut bien le dire,
parce que exactement ce qu'il veut, hein,
parce que évidemment, ouais, tout ça est de l'ordre du discours, et il faut aller voir ce qui se passe concrètement en Russie, ouais, pour pouvoir juger. Et la réalité russe est très différente des beaux discours que nous tiennent ces hommes politiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une séduction Poutine parmi les hommes politiques européens, parce qu'il incarne, disons, une voie différente, un retour au conservatisme, un retour à l'identité, ainsi qu'une politique anti-américaine. Donc il y a une réelle séduction, effectivement.
RFI. Alors, nous allons repartir en Russie tout à l'heure, mais il faut faire une escale, elle est importante dans cette émission, Michel Tchaninov, en Afrique. Au Burundi d'abord, après la tentative de putsch de la semaine dernière, dont nous avons beaucoup parlé samedi dernier, le président Nkurunziza a accepté de reporter la date des élections générales, mais pas de la présidentielle, de quelques jours. Correspondance de Bujumbura, signée Esdras Ndikumana.
Pierre Nkurunziza est droit dans ses bottes, malgré la grave crise qu'elle traverse aujourd'hui le Burundi. Des manifestations contre le troisième mandat depuis plus de trois semaines, doublées d'une tentative de coup d'État la semaine passée, les pressions de la communauté internationale et des pays de la région, la suspension de l'aide électorale par plusieurs des principaux bailleurs de fonds de ce pays, Malgré tout cela, le président burundais s'est contenté d'un report à minima en renvoyant les législatives et les communales au 5 juin. Du coup, personne n'est satisfait malgré les assurances de Pierre Nkurunziza que ce scrutin va se dérouler dans la paix et la tranquillité. L'opposition et la société civile burundaise ont déjà réagi en rejetant la proposition de Nkurunziza. Trop court pour trouver des solutions aux graves problèmes que traverse aujourd'hui le Burundi, a tranché au nom de toute l'opposition Frédéric Mwamvugenyumvira, le vice-président du parti Frodebu. La société civile, à la tête de la campagne contre le troisième mandat de Nkurunziza, estime elle qu'il est impossible dans ces conditions d'organiser un scrutin libre et transparent, en rappelant par exemple que l'opposition burundaise ne peut tout simplement pas faire campagne aujourd'hui. Et la communauté internationale n'est pas loin de partager le même avis. Mais le président Pierre Nkurunziza, sûr de son bon droit, semble aujourd'hui décidé à faire cavalier seul s'il le faut.
Évidemment, la situation au Burundi est à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio. Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, donc au Mali. Et nous allons revenir sur la mort de deux djihadistes lors d'une intervention de l'armée française dans la région de Kidal. Hag Inawalel, le numéro 2 du groupe Ansardine, et Abdelkrim Al-Targhi, le chef d'une cellule d'ACMI, qui a revendiqué l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verland, nos amis, en novembre 2013. Guillaume Thibault.
Al-Targhi, c'est 2 ans de travail, c'est un maillage qui se resserre en permanence, indique un responsable de l'armée française qui pointe l'importance des drones et des avions pour suivre les déplacements. Visiblement, les deux chefs djihadistes avaient convenu d'un rendez-vous dans la plus grande discrétion. Les deux hommes se sont déplacés uniquement avec un garde chacun. Ils avaient besoin de se parler en tête à tête, indique l'une de nos sources. Et malgré leurs précautions, ils ont commis une faute. Un point est essentiel. L'armée française a découvert qu'Abdelkrim Al-Targhi jouait un rôle capital dans l'organisation des ravitaillements, notamment en armes, et qu'Ibrahim Hag Inawelen était ces derniers mois l'adjoint d'Iyad Agrali, son messager également. Pour nous, c'est lui le numéro 2 d'Ansardine, affirme un militaire. Et toutes les actions de celui que les djihadistes surnomment Bana étaient étudiées par les services français. Je ne vous dirai pas lequel nous a mené à l'autre, indique le cadre de l'état-major. L'opération s'est visiblement déroulée au petit matin. Le militaire conclut, des chefs djihadistes de ce rang ne se rendent pas. Ils mangent, dorment, vivent avec leurs armes automatiques. Ils ont ouvert le feu. Nos forces ont riposté.
Suite d'une semaine d'actualité au Tchad, cette fois, l'Assemblée nationale du pays a voté en faveur de la prolongation de l'intervention de ses troupes contre les insurgés islamistes de Boko Haram, non sans vive discussion. Correspondance de Madjasra Nako.
Le Parlement a été convié ce mercredi à un exercice répondre à une question. Faut-il permettre aux soldats tchadiens engagés au Cameroun et au Nigeria dans la lutte contre Boko Haram de continuer leur mission? L'unanimité observée 4 mois plus tôt au sein de la classe politique a volé en éclats. L'opposition, qui avait des questions restées sans réponse, a décidé de voter contre la prolongation de la mission. Saleh Maki, député de l'opposition.
Quelle est la situation exacte de nos hommes sur le terrain? Quel est l'apport des pays amis tels que la France, du Cameroun, du Nigeria, la CEAC, la CEMAC, les Nations Unies, en carburant, en munitions, en vivres dans cette guerre? Aucune réponse n'a été donnée.
Autre question telle que la situation des soldats morts ou blessés, les conditions de vie de ceux qui se trouvent sur la ligne de front ont aussi été abordées. Sans aller dans les détails, le ministre de la Défense, qui admet que la situation des soldats n'est certes pas bonne, promet une amélioration sous peu. Général Benaindo Tatola.
C'est vrai que le soldat était traité pas d'une manière bonne, comme on dirait, il y a eu un temps, mais nous sommes là-dessus et avec l'organisation de l'armée, la vie du soldat est en train de changer et ça va changer certainement. Mais j'aurai l'occasion de venir en reparler aux députés et par conséquent au peuple.
La résolution a toutefois été adoptée, l'armée tchadienne pourra donc continuer sa lutte contre Boko Haram.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, et il nous faut parler encore des violences xénophobes en Afrique du Sud. Elles durent depuis des mois. Violences contre les immigrants africains. Reportage mercredi de notre correspondante Alexandra Branjon.
Dans les bureaux de l'African Diaspora Forum, c'est l'effervescence. Chaque jour, l'association d'aide aux migrants reçoit plusieurs dizaines d'appels de personnes victimes de violences, déplacées ou qui demandent conseil. Salomon est camerounais. Le mois dernier, il a été attaqué en pleine nuit à son domicile par un groupe de jeunes. Il a réussi à fuir et s'est réfugié auprès de la police. Aujourd'hui, il n'a ni domicile, ni emploi et vit chez des amis.
J'ai peur d'y rentrer là-bas. Entre temps, j'ai essayé d'appeler d'autres gens qui habitaient dans la même concession que moi. J'ai constaté qu'il y avait un Kenyan avec sa famille qui sont partis. Il y avait aussi un Malawien qui est parti. Tout le monde est parti, presque tout le monde est parti de là, parce qu'on s'est dit que c'est un endroit où il y a beaucoup de Sud-Africains, donc chacun a un peu peur.
Pour Marc Diafou de l'Association de la diaspora africaine, la violence s'est certes calmée depuis le mois dernier, mais les gens sont toujours traumatisés.
Lors des attaques, là, des centaines de personnes qui viennent ici chaque jour, ils viennent pour la protection. Les gens viennent demander s'ils doivent quitter là où ils habitent parce qu'ils vont être attaqués. Quels conseils on leur donne ? Est-ce qu'ils doivent s'arranger pour rentrer dans leur pays ? Il y en a qui ont perdu des choses. Et bon, la violence s'est relativement calmée. Maintenant, c'est le gouvernement même qui attaque les migrants.
À ce jour, près de 4000 étrangers ont été arrêtés par le gouvernement. Certains sans titre de séjour, d'autres pour différents crimes. L'ONG tente en vain de leur apporter une assistance légale et dénonce la réponse du gouvernement qui, selon eux, légitimise la xénophobie.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Continuez évidemment à nous écrire. Merci pour vos messages. Un bonjour aujourd'hui à Boukari N'Djamena. Il se demande encore pourquoi la tentative de coup d'État au Burundi a échoué. Un salut à quelques auditeurs qui nous ont écrit à la page Une semaine d'actualité de Facebook. Bonjour par exemple à Ezekiel et à Djibril. Un salut à Hugues, à Cotonou, à Oscari N'Djamena, à Sosao, à Nouakchott, à Tolnia et à Romain à Abidjan. Vous écoutez RFI et vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité, nous retrouvons Michel Etchaninov, qui, avec lequel nous parlons depuis une petite heure, de Vladimir Poutine. Il a écrit Dans la tête de Vladimir Poutine, un livre publié chez Actes Sud, à recommander pour comprendre ce qu'il y a dans la tête de cet homme. Dans ce livre, qui, je rappelle que vous avez étudié ou réétudié tous les philosophes russes que Poutine instrumentalise en quelque sorte, ou recycle. Dans ce livre, vous revenez sur la grande différenciation qu'il y a en Russie entre les slavophiles et les occidentalistes. Il faut revenir, je crois, sur cette division, en fait, sur ces deux catégories.
Vous avez raison, parce que c'est sans doute la division qui fonde la culture russe depuis des siècles, qui s'est exprimée dans deux écoles donc philosophiques à partir du début du 19e siècle. D'abord, il y avait les occidentalistes qui considéraient que avec une Russie où il y avait le servage, une Russie où il y avait l'autocratie, la Russie était un peu en retard sur l'Occident et donc devait essayer de rattraper ce retard. Ça, c'est la position des occidentalistes qui considèrent que voilà, il faut essayer de moderniser la Russie. Et puis au même moment apparaissent des penseurs originaux qui s'appellent eux les slavophiles, ceux qui aiment les slaves, et qui eux au contraire essayent de dire que la Russie doit rester elle-même. La Russie a ses propres traditions, la Russie a sa paysannerie, la Russie a son orthodoxie, et donc qu'il faut essayer de développer une voie spécifique.
Alors sachant qu'il y a plusieurs tendances dans ce camp des slavophiles par
tout
exemple.
Tout à fait, c'est-à-dire que la première tendance des slavophiles, les slavophiles historiques, ne sont pas du tout impérialistes. Ils considèrent au contraire que finalement la vraie Russie c'est la vie paysanne, c'est la vie locale, c'est pas le froid empire qui s'étend. Au contraire, il y a une deuxième génération slavophile qui elle est beaucoup plus impérialiste, et c'est sur ce courant là que s'appuie Vladimir Poutine. Il s'appuie sur l'idée suivant laquelle il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, une véritable opposition, une véritable inimitié entre la Russie et l'Europe, et que une confrontation, pas forcément militaire, mais au moins culturelle, est inévitable entre les deux. Et donc Vladimir Poutine, on va pas dire qu'il est un slavophile, parce que c'est un mouvement beaucoup trop complexe, qu'évidemment ce qu'on peut en faire politiquement. Ouais. Mais en tout cas, il est évident qu'il s'appuie sur certains penseurs plutôt slavophiles, qui expliquent que il faut oser se confronter à l'Occident. Donc il en prend l'aspect le plus impérialiste et le plus anti-occidental.
Alors même les grands écrivains russes, et Dieu sait s'il y en a, comme Dostoïevski, sont appelés à la rescousse. Vous nous rappelez dans le livre que les démons adaptés au cinéma ou à la télé ont été diffusés le 25 mai 2014, le soir même de l'élection présidentielle en Ukraine. Il faut rappeler que les démons, ça raconte l'histoire d'un attentat sous influence de l'Occident, entre guillemets.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que que ce qui est terrible, en fait, c'est qu'il y a une instrumentalisation de la culture. La culture russe est une culture extraordinairement riche, qui a une importance pour toute l'Europe et le monde phénoménale. Aujourd'hui, on assiste à une sorte d'instrumentalisation, de réduction de cette culture. Et le seul exemple, c'est effectivement l'exemple que vous avez donné est excellent, parce que le jour même de l'élection dans l'Ukraine
c'est frappant.
Du président Porochenko, eh bien, on montre un film qui est une adaptation de ce beau roman de Dostoïevski, où on essaye de distribuer les rôles, de dire les méchants, c'est les occidentaux révolutionnaires, enfin les Russes influencés par l'Occident, et les gentils, c'est ceux qui sont pour le tsar. Dostoïevski est heureusement 10 fois plus complexe que ce schématisme qu'on voudrait lui imposer. Et donc je pense que ce qui est important aujourd'hui pour nous tous, c'est de nous réapproprier cette culture au-delà de son instrumentalisation politique. Dostoïevski a eu des moments de son œuvre et de sa vie où il était très anti-occidental et très favorable au tsar, mais Dostoïevski est surtout un écrivain, un psychologue, un philosophe extraordinaire qu'on ne peut absolument pas ranger dans une case qui serait aujourd'hui pro-poutinienne.
Alors, Michel Etchaninov, comment se situe Vladimir Poutine par rapport à la religion, par rapport à la religion orthodoxe notamment?
Alors, Vladimir Poutine dit souvent que son dieu est intérieur. Il dit aussi souvent tout de même qu'il possède une croix, qu'il est croyant. Vladimir Poutine assiste à tous les offices orthodoxes, notamment les offices importants à Pâques. Vladimir Poutine est quelqu'un qui, alors que nous sommes dans un état laïque, place souvent à côté de lui le patriarche russe Cyril. Vladimir Poutine, là encore, instrumentalise clairement l'orthodoxie, qui est donc le comme disait le pape Jean-Paul II, le poumon oriental du christianisme, hein, par rapport aux catholiques et aux protestants. Il l'instrumentalise pour essayer d'en donner une version ultra-patriotique. Aujourd'hui, malheureusement, en Russie, on assiste à une version de l'orthodoxie où il s'agit de réaffirmer la puissance russe, l'idée suivant laquelle Moscou est la troisième Rome, après Rome et Byzance, Moscou serait amené à devenir un pôle impérial et spirituel pour le monde entier, c'est-à-dire qu'on est dans une version clairement nationaliste de la religion. L'orthodoxie a connu une renaissance dans les années 1980-90, puisqu'il avait été interdit officiellement par le régime communiste. Ouais. Cette renaissance est beaucoup plus complexe que ce qu'en fait évidemment le pouvoir politique, mais Vladimir Poutine instrumentalise clairement l'orthodoxie aujourd'hui.
Alors à propos de Michel Etchaninov, de l'Union soviétique, il faut rappeler que Vladimir Poutine a travaillé longtemps pour l'Union soviétique comme agent du KGB, et on ne peut pas le comprendre sans réaliser qu'il a quand même une nostalgie de cette époque.
Oui, il a une nostalgie et puis il a un profond enracinement dans les valeurs de cette époque. Une époque des années, disons, 1960-1970, où on ne croit plus du tout au marxisme, hein, on ne croit plus à la disparition des classes sociales ni rien. En revanche, on est pleinement soviétique dans le sens où, comme Vladimir Poutine, on est ultra-patriote, on est très marqué par la guerre, parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, mais il y a eu ensuite la guerre d'Afghanistan, notamment en 79, qui a marqué les esprits. C'est-à-dire qu'on considère que la guerre est un mode de résolution des problèmes tout à fait naturel. Donc, Vladimir Poutine est évidemment très marqué par sa jeunesse soviétique, d'autant qu'il sort de ce qu'il considère être le corps d'élite de l'Union soviétique, le KGB, c'est-à-dire les services secrets, où on considère qu'un mouvement démocratique est forcément manipulé par un ennemi extérieur, où on méprise un peu les mouvements, les manifestations, les mouvements populaires. Bref, Vladimir Poutine évidemment est très marqué par son passé soviétique.
Parce que quand on dit rejet de l'Occident, c'est notamment le rejet des États-Unis dans l'esprit de Vladimir Poutine.
Oui, en
ça
fait,
aussi, c'était un reliquat, un souvenir de cette.
Évidemment, c'est-à-dire que Vladimir Poutine a grandi dans une rhétorique de lutte contre l'Occident. Aujourd'hui, il répète des choses qui ont été dites dans les années 60-70. Vladimir Poutine explique que l'ennemi c'est les États-Unis et que les Européens ne sont que les vassaux des États-Unis. C'est-à-dire, en gros, il essaye d'expliquer aux Européens, libérez-vous de cette terrible influence américaine, venez plutôt sous mon aile conservatrice et nous allons créer une Europe indépendante des États-Unis. Donc Vladimir Poutine joue de manière très habile sur une certaine méfiance qu'ont certains de nos concitoyens vis-à-vis des États-Unis, méfiance tout à fait légitime sur certains points évidemment. Il joue là-dessus pour expliquer que l'ennemi c'est les États-Unis et voilà que les Européens feraient mieux de revenir un peu sous vassalité plutôt russe.
Et pour conclure, à la fin de votre livre, Michal Etchaninov, vous écrivez « Avec Poutine », la phrase est très belle d'ailleurs, « Avec Poutine, la Russie est à nouveau le nom d'une idée ».
Oui, parce que la Russie, durant tout le XXe siècle, a été, disons, le corps principal d'une idée qui était l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, c'est-à-dire non pas un pays, mais l'idée, une idéologie à vocation mondiale.
Un empire.
Un empire, évidemment, et puis même une idée qui est amenée à avoir son influence dans le monde entier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la Russie de Vladimir Poutine ne veut pas être simplement un pays qui a ses problèmes et ses points positifs et ses points négatifs comme tous les pays. Il veut être autre chose, il veut être une idée pour l'Europe.
Et pour combien de temps encore, à votre avis?
Eh bien, Vladimir Poutine, lui, vraiment se situe dans le temps long. Je pense qu'il souhaite être réélu en 2018. Alors, il pourra rester au pouvoir jusqu'en 2024. Ensuite, choisir son successeur qui terminera son premier mandat en 2030. Bref, Vladimir Poutine s'inscrit dans le temps long d'un retour en puissance de la Russie.
Merci Michal Etchaninov. Il faut absolument lire Dans la tête de Vladimir Poutine, votre livre tressé publié chez Solin à Actes Sud. Il aide à comprendre ce qu'il y a dans la tête, dans l'esprit, dans les actes même de Vladimir Poutine. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin, une émission à podcaster évidemment, tout comme vous pouvez podcaster le magazine Idées que nous vous proposons demain, comme chaque dimanche à 17h10, heure de Paris. Nous continuerons notre réflexion sur les penseurs dans le monde arabe, cette fois à l'époque contemporaine, avec l'économiste et historien libanais Georges Corme, qui vient d'écrire « Pensée et politique dans le monde arabe », un ouvrage publié aux éditions La Découverte. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.